Je voulais d'abord, pour ne pas l'oublier tout de suite, remercier Romain de Haute Fidélité qui m'a aidé à monter cette table ronde sur un sujet, et je m'en excuse parce que sur le programme à la base, le titre n'était pas exactement celui que vous avez ici sous les yeux. On a un petit peu évolué au fur et à mesure où on invitait des professionnels à venir prendre la parole. Mais pour vous résumer globalement le sujet, on va bien parler effectivement data, algorithme, intelligence artificielle. Pour résumer grossièrement, on va parler technologie et outils technologiques, et j'insiste sur le mot outils, et voir comment effectivement aujourd'hui ça vient percuter des métiers dans une filière, comment ça transforme les métiers, comment ça peut-être enrichit le quotidien, comment peut-être ça l'appauvrit. Et effectivement, alors comme aujourd'hui, impossible depuis quelques mois d'ouvrir un média sans avoir au moins une fois par jour quelque chose sur l'intelligence artificielle. Oui, on va bien parler d'intelligence artificielle, peut-être plutôt sur la fin des échanges, plutôt dans un mode prospectif, sauf à ce que quelqu'un parmi vous ait tout de suite envie d'en parler et se signale. La norme, c'est effectivement, on va être dans le question-réponse. Moi, je vais essayer d'animer trois invités. Et puis, évidemment, n'hésitez pas à interrompre pour poser une question dès qu'elle vous brûle les lèvres. On va essayer de rendre ça le plus interactif possible. Je me présente rapidement et vous expliquer pourquoi. Moi, j'ai le plaisir d'animer cette table ronde. Tout en haut, à droite, vous avez un logo qui est celui de Pleine Image. Pleine Image, c'est un hub qui est dédié aux industries créatives, qui est ici sur la métropole lilloise et qui est même précisément entre Roubaix et Tourcoing, donc à deux pas d'ici. Nous, notre métier, c'est d'accompagner des entreprises qui sont dans les industries créatives pour les aider à se développer. Et notre indicateur de succès, c'est la création d'emplois, si on résume grossièrement les choses. Et depuis maintenant 2 ans, là, on faisait déjà tout un boulot de fond, notamment dans le monde de l'audiovisuel et dans le monde du jeu vidéo. On a choisi de se positionner très fortement sur la musique et sur le volet innovation de la musique, donc ce qu'on appelle Music Tech. On en reparlera avec Alice. Parce qu'il y avait un écosystème déjà en région Hauts-de-France d'entreprises qui étaient dans cette niche, dans cette filière. Et donc on a choisi d'aller plus loin, d'essayer de faire en sorte que ce petit écosystème régional, on l'aide à se développer. Donc notre job au quotidien sur cette partie Music Tech, c'est comme c'est écrit, voilà, pour une fois je vais paraphraser une slide, mais c'est développer, fédérer un écosystème d'entreprises innovantes. Si parmi vous, certains sont curieux, curieuses d'en savoir un peu plus sur cet écosystème Music Tech propre à la région de France, je serai disponible après notre table ronde. Trois invités donc pour parler data, IA, algorithmes et métiers de la filière. Par ordre d'apparition, Alice. Et je vais demander à chacun, chacune de se présenter. Donc, tu es cofondatrice d'une entreprise qui s'appelle Jamspace. Et tu représentes aussi aujourd'hui Music Tech France. Donc, est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise et cette structure ?
Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc, Music Tech France, pour commencer, c'est une association qui a vu le jour il y a quelques années, en 2019, et qui fédère les acteurs de l'innovation dans la musique. Donc on a à peu près 80 entreprises qui sont membres et qui vont être donc soit des structures qui bossent dans la musique depuis toujours et qui développent un produit ou service innovant, mais aussi des structures qui travaillent sur plus largement la technologie et qui va trouver une application dans le domaine musical. La mission de cette association, c'est vraiment de faciliter les liens entre membres, pour faciliter le business en fait, donc faire se rencontrer les différents membres et faire rencontrer aussi les membres à des entreprises plus grosses, notamment via pas mal d'événements qu'on va organiser.
J'ai prévu une slide, mais tu vois, je m'étais plantée, j'avais mis 50 entreprises, j'ai honte. Donc c'est 80. Désolée.
Oui, donc du coup, pour raconter un peu les actions de Music Tech France, en fait, principalement, ça va être beaucoup donc de rencontres. On va organiser des événements sur des thématiques particulières, donc par exemple l'IA, la data, le streaming, etc., où on va réunir différents acteurs qui vont avoir donc des billes à apporter sur ces sujets-là. On va aussi organiser des rencontres spécifiques, par exemple entre un grand groupe et différentes startups, le grand groupe ayant pour but de se renseigner sur qu'est-ce qui va exister comme innovation dans tel ou tel domaine qu'il concerne. Et donc on va faire une sélection des innovations qu'on peut présenter au groupe en question. Et voilà, et l'idée c'est aussi de pouvoir donc fédérer un peu ce réseau Music Tech France et le faire rayonner finalement au-delà de la France mais aussi en Europe avec d'autres actions.
Et tu as le droit à un petit peu d'autopromo, Jamspace ? ta propre entreprise.
Jamspace, que j'ai fondée aussi en 2019, et qui est une plateforme qui aide les musiciens, musiciennes à se rencontrer pour former des projets ensemble. Et derrière, on va donc accompagner les projets qui se forment sur la plateforme. On les accompagne dans le monde bien physique, sur la répétition, le fait de faire des concerts et le fait de développer son projet petit à petit.
Anthony, Punch Promo ?
Yes, bonjour à tous. Donc, je suis Anthony de Punch Promo. Je dirige une agence qui est spécialisée dans le marketing d'ads et d'influence pour l'industrie musicale. Donc nous, notre activité grossièrement, c'est de développer en fait des audiences sur les plateformes de streaming et sur les réseaux sociaux, donc pour le compte de producteurs, d'artistes en direct, de labels, tout autre acteur de l'industrie musicale. Et on a aussi une deuxième activité qui est plus une activité de label, on est aussi distributeur, donc on a un label deal en distribution sur lequel aujourd'hui on représente plus de 70 artistes. Et du coup aujourd'hui pour nous, la data, les algorithmes, l'intelligence artificielle de façon générale sont un des leviers clés qu'on utilise nous dans notre quotidien, et j'aurais plaisir du coup à vous présenter tout ça.
Et Florent ?
Oui, bonjour à tous. Donc moi c'est Florent Descartes, je travaille à Gauche de la Lune. On a deux activités, à la fois booking avec un catalogue d'artistes maison que l'on fait tourner en France, en Europe, partout, et une partie promotion locale, production, que je fais partie. Et là on a 200 dates environ à l'année qui vont de cafés-concerts à des stades, en passant par toutes les salles, et du coup à Lille et dans les Hauts-de-France plus généralement.
Et Florent, en te présentant, tu peux peut-être rajouter ta petite couche perso dont on a parlé juste avant de...
Ouais, voilà. Et j'ai monté un tout petit site qui s'appelle KiDistrib, qui à la base sert à connaître le producteur d'un groupe, donc on tape le nom du groupe et on a le producteur, et depuis un petit mois, je m'amuse à faire des analyses, donc des analyses de la programmation des SMAC, par exemple, savoir quel est l'artiste qui a le plus tourné dans les SMAC en 2023, etc. Ouais, donc voilà, je
pense. Et c'est accessible gratuitement.
Et surtout gratuitement, absolument.
Voilà. Qui connaît ? Qui distribue ? Ok. D'ailleurs, juste rapide sondage, qui est plutôt live dans la salle ? Qui serait artiste ou management ou label ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans l'édition spécifiquement ? Ok.
Je cherche à l'être.
Ah, ben voilà. Ah, mais on s'est vu récemment.
C'est vrai.
Ouais, tout à fait. Je vous avais pas reconnu. Bon, merci. On va commencer juste par un tour d'horizon, un petit peu chauvin et souverain. J'ai demandé à Alice, effectivement, en tant que représentante de Music Tech France, on va présenter quelques apps, plateformes qui viennent de cet écosystème français, donc je l'ai bien dit, chauvin et souverain, on va uniquement parler de choses qui sortent de l'hexagone, mais tout au long de nos échanges, évidemment, on va citer des outils qui ne sont pas forcément français, qui peuvent être anglo-saxons, asiatiques, peu importe, et aussi dans le mode opératoire de notre échange, quand on fait référence à un outil que vous avez mal compris, n'hésitez pas à lever le doigt pour demander et prendre des notes si effectivement on vous dit « Ah, cet outil pourrait me servir dans ma vie professionnelle », on va essayer d'être le plus limpide possible. Alice, c'est quelques membres de Music Tech France et quelques entreprises innovantes, et on va les présenter.
C'est ça. Et donc du coup, c'est vraiment, c'est une sélection, comme tu l'as dit, c'est parmi d'autres, certains outils qui utilisent la technologie d'une certaine manière pour générer de nouveaux usages ou pour faire les choses un peu différemment. Donc on fait ce petit tour d'horizon et c'est pas du tout exhaustif et je pense qu'on verra plein d'autres solutions aussi.
Il y a un site internet Music Tech France où vous pouvez retrouver tous les membres.
Oui, ou même de manière générale, je pense qu'il y a plein d'usages dans la musique qu'on va pas toucher là, mais en tout cas voilà le petit tour d'horizon. Donc on commence par Fairly, qui est une entreprise qui va utiliser la blockchain. Donc on rentre directement dans le dur du sujet.
Premier gros mot.
La blockchain qui va Fairly va notamment gérer les paiements sur les festivals ou dans les salles de concert via la blockchain, ce qui permet en fait de garder une traçabilité de tous les paiements qui vont être faits. Et l'approche qu'ils ont, c'est une approche qui est très transparente, c'est-à-dire que l'idée, c'est de permettre à chaque festivalier de savoir exactement, j'ai payé ma bière 8 €, et en fait cet argent, où est-ce qu'il va ? Et de donc être transparent sur l'économie du festival, et dans le but de gagner finalement dans un peu la responsabilité aussi sociale et comment les festivals peuvent mieux communiquer avec leur public. Donc savoir dans quoi cet argent est utilisé, et cette entreprise a aussi pour but, dans un deuxième temps, de pouvoir mesurer l'impact écologique d'un festival ou d'une manifestation culturelle, quelle qu'elle soit, grâce à cette traçabilité de tous les paiements et donc des outils qui développent pour tracer. Ils ont des modules de caisse, ils ont les applications pour payer en ligne, etc. Donc c'est vraiment une manière très éthique, pour le coup, qui les caractérise d'utiliser cette technologie blockchain.
Qui connaissait Fairly ?
Deuxième entreprise qu'on peut présenter. Ouais.
Comment
est-ce qu'on peut faire Google ? En fait, c'est Fairly.run.
Merci pour la question. Effectivement, c'est le bon réflexe, c'est celui-là.
Ouais. Music Tomorrow. Donc là, ça va plutôt être une solution orientée vers les artistes, ou en tout cas les personnes qui travaillent côté artiste, donc label, manager. Cette entreprise développe un outil qui va permettre, en fait, d'améliorer son référencement sur les plateformes de streaming, à la manière du SEO, par exemple. Lorsqu'on a un site web, aujourd'hui on sait que c'est bien d'avoir tel mot-clé, etc., pour être trouvé dans les recherches Google. Et ben, y a exactement la même chose qui existe côté streaming, et en fait l'outil développé par Music Tomorrow va permettre de dire voilà les choses qu'il faudrait optimiser pour que votre musique soit plus facilement découvrable par l'algorithme. Et qui dit plaire à l'algorithme dit avoir plus d'écoute au final, puisque la musique va donc être proposée plus facilement dans les parcours d'écoute des utilisateurs.
Qui connaissait ?
Alors Rapminers, troisième solution qu'on peut présenter. Eux, pour le coup, ils ont une approche assez originale. En fait, ils vont utiliser les données, notamment de l'industrie du rap, pour présenter des médias et présenter finalement l'industrie du rap d'une manière un peu décalée. Et donc, par exemple, ils vont faire beaucoup d'analyses sur le champ lexical des paroles utilisées dans les morceaux de rap, et voir un peu comment ça évolue, ou sortir des petites stats un peu rigolotes, quoi, ou qu'on n'aurait pas imaginé, qui sont donc issues de ces analyses assez poussées de la data qu'ils arrivent à faire. Donc eux, ils se sont développés plutôt en tant que médias dans un premier temps, et aujourd'hui on trouve une application aussi donc pour des labels ou des artistes qui aimeraient avoir en fait des idées de stratégies créatives un peu originales ou un peu différentes qu'ils peuvent développer grâce à ces données qu'ils arrivent à trouver.
Toujours même question, qui connaissait ?
Est-ce que c'est la même boîte ou le même type de boîte qui ont certainement dit, par exemple, pour le rappeur américain qui a le plus de vocabulaire, c'était Eminem, et celui en France, c'était François Hardy ?
Je sais pas si c'est eux, mais ça pourrait, oui, je pense.
Je crois que c'est eux qui ont fait ça. L'analyse des artistes qui ont le plus de vocabulaire en France, je crois que ça vient de Rapminers, justement, parce qu'ils analysent les textes de justement tout ce qu'on va appeler un peu le corpus de textes du rap français, et ils vont justement déduire des grandes lignes. Donc ça fait partie de leurs travaux, effectivement.
Alors Relax Ticket, c'est une autre solution qui existe, qui elle se spécialise sur la revente de billetterie, enfin revente de tickets. Et la particularité, la différence qu'ils ont par rapport à d'autres plateformes de revente, c'est que ils travaillent directement avec les plateformes de vente dans un premier temps. Donc par exemple, une billetterie qui est très connue, c'est WizEvent. Eux vont se brancher directement à WizEvent de manière à ce que lorsqu'il y a un billet qui est revendu, ils vont annuler en fait le premier billet qui avait été généré, et ils vont en générer un nouveau au nom de la personne qui l'a racheté. Donc ça permet vraiment de sécuriser les transactions jusqu'au bout. Donc pour le détenteur du billet, c'est quelque chose qui est très positif, mais aussi pour l'organisateur, puisque avant ça, les organisateurs avaient aucune trace de tout le marché secondaire, et eux permettent du coup d'avoir cette visibilité jusqu'au bout et savoir qui va finalement réellement venir à l'événement.
Tu connaissais, Florent ?
Oui.
Tu utilises ? Enfin, vous utilisez ?
J'achète plus de billets depuis longtemps. Non, oui. Non, si, oui, bien sûr. Je
c'est vrai que j'avais personnalisé la question. Qui connaît Relax Ticket ? Ouais, enfin, ce qui est logique, il y a une représentation des salles Je crois qu'on arrive au...
Soundcharts, ouais, on arrive bientôt à la fin du petit tour. Soundcharts qui est peut-être plus connu, enfin peut-être certains d'entre vous avaient déjà entendu parler. Eux, en fait, vont analyser pas mal de données issues des écoutes, des réseaux sociaux, des artistes, du passage en radio. Donc faire un peu ce scan de tout ce qui est stream, écoute, etc. pour finalement... pouvoir dire un peu, bon ben tel artiste, voilà comment il se porte, voilà quelle est sa stratégie. Donc ça peut avoir pas mal d'applications. Pour des artistes, ça permet de se comparer un peu à d'autres artistes similaires et savoir comment du coup adapter un peu la manière de se développer. Et ça permet aussi éventuellement de prédire ou de voir, bon ben là il y a un artiste qui monte, ça pourrait être intéressant de le produire, de travailler avec lui. Donc plutôt sur la découvrabilité des artistes.
Toujours la même question, Soundcharts, qui connaît et utilise. Ouais.
J'ai pas tout compris. Soundcharts, c'est voir si des artistes sont plus ou moins streamés. Ensuite, ça leur permet d'être.
Entre autres, en fait, ça va analyser pas mal de stats. Qu'on peut trouver sur le web ou sur les passages en radio, donc savoir, ok, tel artiste, à quel point il est écouté, comment ses réseaux sociaux se développent, qu'est-ce qu'il fait comme live. Donc ça prend toutes ces différentes données, ça les agrège, de manière à pouvoir voir, bon ben par exemple, sur une localité donnée, cet artiste, on voit qu'il est très écouté, donc ça peut intéresser des producteurs de live. Donc l'idée, c'est de utiliser toutes ces données pour en tirer des actions précises, quoi, pour développer un artiste ou pour le faire jouer.
Ouais, okay.
Autre solution sur la partie merchandising. On sait que le merch en concert, c'est souvent quelque chose qui est géré un petit peu... voilà, c'est un pote qui tient le stand à t-shirt, on ne sait pas trop combien on a vendu, tout est encaissé en cash. Bref, c'est très dur de suivre les résultats de ça. Yars est une appli qui va proposer donc, une boutique un peu nouvelle génération. Et notamment, ils vont permettre à une personne qui regarde un concert de pouvoir commander son merch en même temps qu'il regarde le concert. Et aller le récupérer en fin de show, donc ça évite en fait les grosses files d'attente en fin de live où parfois il y a des gens qui se découragent, où c'est un peu le bazar, quoi. Et aussi ça permet donc de faire remonter toutes ces données de combien de merch on a vendu, pouvoir mieux gérer ses stocks, et là aussi pouvoir avoir un œil sur cette source de revenus qui en général n'est pas négligeable, notamment pour des artistes en développement.
Donc ça peut intéresser aussi bien l'artiste le management que le producteur. Ouais. C'est un sujet aujourd'hui pour vous, par exemple.
Alors plus du côté booking, du coup, nous comme on produit, on fait appel à c'est d'autres producteurs, on organise pour le compte d'autres producteurs, donc ils ont déjà leur solution quelque chose. Mais du côté booking, oui, complètement. Ouais, les artistes que l'on fait tourner, je pense à Dubbing en ce moment qui est en train de faire plein de zénith, etc. Et donc oui, ça peut être c'est quelque chose qui est ultra intéressant pour eux.
Et puis on voulait finir sur un outil qui n'est pas français, mais belge, donc c'est presque la même chose. J'espère que je choque personne dans la salle en disant ça. Booker.fm, qui a été développé par une personnalité assez influente justement dans ce monde de la musique tech, Alex Stevens, donc qui était programmateur du Festival de Dour, voilà, qui a lancé pas mal d'outils tech en son nom propre. Tu te sens, Alice, de le présenter, cet outil, ou l'un d'entre vous
Allons-y, puis tu compléteras. du coup, cet outil va analyser, là aussi, il va se baser sur pas mal de stats, de données bien tangibles, du type nombre de streams, nombre de airplay, réseaux sociaux. Et il va permettre à des précédents organisateurs de festivals ou de concerts qui ont programmer ces artistes, de pouvoir les taguer d'une manière ou d'une autre, donc en disant, bon ben, enfin en les recommandant plus ou moins. Il va prendre ces deux données-là en compte pour du coup faire des propositions d'artistes à programmer. Et Je te laisse compléter peut-être sur la partie prévision.
Avec une partie prédictive qui effectivement permet de se positionner à 6 mois, 1 an, 2 ans, si par exemple on est un organisateur de gros festivals et où on sait que la négociation de cachet, faut peut-être l'entamer le plus tôt possible. Voilà, donc ça c'est un outil qui fait frémir pas mal de gens, me semble-t-il, du côté du live, parce qu'effectivement c'est typiquement le genre d'outil qui, mais comme d'autres avant hein, peut-être, hein, pose la question. Ce sera peut-être notre question philosophique en fin de rencontre, mais à un moment donné, quelle place de l'humain quand on plug tous ces outils ensemble? Est-ce qu'on n'a pas une batterie de choses qui peuvent, entre guillemets, faire notre boulot, enfin votre boulot, voilà, à la place, et que la partie humaine, la partie sensible, la partie émotionnelle, réactive, elle a peut-être tendance à prendre, voilà, laisser la place à des aspects technologiques. Aujourd'hui, Anthony comme Florent, est-ce que vous diriez que tout ce qu'on a vu, cette notion de data, cette notion de récupérer de la donnée, de l'information, j'ai envie de dire, quelle place ça occupe dans votre quotidien professionnel, et est-ce que c'est même le cœur finalement de votre métier ?
Alors, dans mon cas, la data, ouais, c'est super important, et je vais rebondir, bah, par exemple, quand on parlait de Soundcharts, moi aujourd'hui, ce que j'apprécie dans ces outils-là, il y a Soundcharts et il y en a d'autres, mais dans l'idée, ils font à peu près tous la même chose, vous pouvez avoir des photographies à un instant donné et voir aussi quelle est l'évolution de ces projets-là. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je prends mon cas de figure sur la distribution, il y a beaucoup de projets que je suis à un instant T, que je retourne voir 6 mois plus tard, et ça me permet de voir, en fait, qu'est-ce qui a bougé. Qu'est-ce qui a bougé, par exemple, sur leurs réseaux sociaux, leur compte Instagram, leur compte Twitter, leur compte TikTok, est-ce qu'ils ont gagné des abonnés, est-ce qu'ils ont créé du contenu, est-ce qu'ils ont de la réponse. En fait, plutôt qu'aller voir indépendamment chacun de ces réseaux-là et de me faire ma propre analyse, grâce à Soundcharts, je sais immédiatement en fait si cet artiste-là que j'avais repéré, est-ce qu'il a travaillé, est-ce qu'il a du contenu, est-ce qu'il a gagné des abonnés, est-ce que des gens en fait se sont greffés au projet. Et ça, pour moi, c'est des bons indicateurs aussi, bah, de savoir sur quel projet on va potentiellement se positionner. On va forcément aller plus facilement vers des projets qui ont une courbe de croissance qui est intéressante. Et ces outils-là vont nous permettre en fait d'avoir des photographies à des instants T de projets et de voir justement bah, comment ils ont évolué. Et ça, avant même d'écouter quoi que ce soit, c'est quelque chose qu'on va aller regarder. Oui, bien sûr.
Ah non, mais je
t'en prie, n'hésite pas.
En fait, il y a une question qui se pose sur ce genre d'outils depuis pas mal d'années. C'est la question qu'on se pose souvent aujourd'hui parce que l'industrie a évolué, les technologies ont évolué. Et du coup, on se demande si, à un certain moment, l'artiste se développe, fait les choses pour effectivement grandir sa fanbase, sa diffusion, etc. Et du coup, il y a d'autres intervenants qui interviennent une fois que ce travail-là est fait. Mais beaucoup se disent, pourquoi j'irai vers cet intervenant alors que moi, je fais déjà tout le boulot. Et là, quand vous parlez de cet outil, c'est je repère... Enfin, Je caricature. Je repère une personne qui a fait tout le boulot et du coup, je vais aller vers lui. C'est un peu ce que des personnes un peu mal pensantes pourraient du coup penser.
Je comprends tout à fait, et c'est la fin de justement mon explication. Ça allait être justement sur pardon, non mais il y a aucun problème. Ça me permet justement d'amener la suite de ma réflexion. C'est qu'en fait, je dis bien ça, c'est avant même d'aller écouter et de se faire notre propre avis. C'est-à-dire qu'il y a aussi des projets qui sont entre guillemets à 1.0 et qu'on va avoir envie de développer sur le coup de cœur. Maintenant, c'est vrai que si on doit faire du sourcing de projets, c'est beaucoup plus facile de regarder des tableurs de chiffres et de regarder des classements, par exemple, de quel artiste a la plus grosse évolution sur Spotify. Quel est l'artiste qui est passé par exemple de 1000 auditeurs à 100 000 auditeurs sur les 6 mois passés? Bah ça, pour nous, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose sur lequel tout de suite on va se projeter. Je vous rejoins, c'est un travail normalement qui doit être fait par les labels, c'est-à-dire qu'il y a des labels qui sont censés accompagner les développements, mais ces outils-là vont nous permettre surtout d'aller repérer ceux qui sont en dessous des radars, ceux qui ne sont pas forcément travaillés par les grosses maisons, et de voir justement bah, sur quel profil nous on peut se greffer pour accentuer en fait d'autant plus cette croissance. C'est pas tant, ça ne fait pas le choix final, mais ça nous permet de nous guider vers des personnes qui ont déjà cette sensibilité-là, qui ont peut-être même développé ça sans forcément le faire exprès, et justement d'aller vers eux et de leur dire bah voilà, nous aujourd'hui on est peut-être prêt à mettre en place des stratégies autour de vous, parce que justement de vous-même vous avez déjà cette exposition. Et c'est pas tant uniquement les chiffres qui vont faire foi, c'est un indicateur, je dirais, pour nous, de savoir comment le projet il évolue dans le temps et de savoir aussi à quel moment, nous, c'est intéressant d'aller se positionner. Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas se positionner sur tous les projets. Et une des façons pour nous de dresser un peu des états des lieux des projets qu'on suit, bah, c'est justement d'aller voir ces dashboards, en fait, ces classements de chiffres et de voir bah, justement quels sont ceux qui ont vraiment progressé et quels sont ceux sur lesquels, nous aussi, on voit la progression faite et on voit bah, qu'on aurait potentiellement envie de se positionner dessus en tant que label.
Si je caricature ta réponse, ces outils sont d'autant plus importants quand on parle d'artistes en développement. Là, dans le cadre de Crossroads, où on est dans cet environnement à la fois artistique et institutionnel et où on travaille sur le fait d'aider une scène locale à émerger, c'est typiquement pour ce genre d'artistes qu'on doit travailler de cette manière-là, plutôt que pour une tête d'affiche où finalement les compteurs sont déjà un peu se relèvent facilement.
Ah, bien sûr. Nous, par exemple, hein, dans notre propre distribution, au moment où je vous parle, j'ai aucun artiste qui dépasse même les 100 000 auditeurs. Et moi, justement, je vais utiliser ces plateformes parce qu'il y a énormément de projets qui vont être, je dirais, entre 1 000 et 100 000 auditeurs. Et que bah, même pour nous, pour sourcer, en fait, on a besoin d'un filtre. C'est-à-dire qu'on a besoin bah, d'isoler même 50 projets qui sortiraient un peu de ce lot-là. Et ensuite, justement, bah, d'aller faire de la personnalisation, d'aller réellement écouter. Mais pour sourcer, ce sont des outils qui sont vraiment incroyables. En fait, il y a énormément de data dessus. Et moi, j'ai découvert vraiment énormément de projets avec lesquels j'ai commencé à travailler via ce genre d'outils. Parce qu'en fait, c'est des choses qui passent sous mon radar traditionnel de radio, de médias classiques, des playlists que moi j'écoute. En fait, ça me permet de me tenir à jour aussi sur ce qui se passe à côté, que je ne vois pas forcément, et d'avoir vraiment une photographie à l'instant T de quels sont les projets qui sont réellement en train de monter, que ce soit sur mon territoire, que ce soit à l'international, que ce soit sur une plateforme en particulier. Et ça, sont des choses que moi, personnellement, je trouve intéressantes parce qu'on est extrêmement sollicité aujourd'hui et ça nous permet en fait de nous faire une petite idée quand même sur quel travail est en train d'être fait et qu'est-ce qu'il est en train de se passer sur le projet. Mais bien entendu, ça ne fait pas tout et c'est aussi pour ça qu'on est là. C'est pour montrer aussi qu'au-delà de la data, on a des coups de cœur musicaux. J'ai accompagné des projets qui avaient très peu d'auditeurs, très peu de data parce qu'on avait un réel coup de cœur sur le projet. Ça existe encore.
À l'inverse... Ah, pardon. Oui.
Une question par rapport au projet coup de cœur. Ça a quelle place véritablement le coup de cœur? Il arrive juste parce que vous entendez la chanson à la radio ou est-ce que vous prenez sur votre temps de travail sans passer par l'analyse de données et pour prendre le temps d'écouter les choses, des recommandations qui ressembleraient à des artistes que vous suivez?
C'est une très bonne question. Nous, aujourd'hui, alors je parle vraiment dans mon cas personnel, j'ai la chance de faire beaucoup d'interventions un peu comme celle-ci et de rencontrer beaucoup de monde. Et il y a beaucoup de personnes que je rencontre avec lesquelles je vais créer du lien humain avant même de parler de chiffres ou de musique même. On peut donner des conseils, on peut donner des retours. Et j'ai eu des coups de cœur sur des projets que j'ai signés où véritablement, on se connaissait déjà alors qu'il y avait rien du tout sur aucune plateforme. C'est en fait il y a vraiment une, je dirais que dans mon cas personnellement, quand je source des projets, quand je suis vraiment en recherche de projets, la première chose que je vais regarder c'est mon cercle proche, c'est-à-dire c'est qui sont les gens que j'ai rencontrés, qui sont les gens avec qui je parle en ce moment. Après, on est dans une logique où dans notre cas, on est un petit label, on fait quand même 5 à 6 sorties par semaine, c'est-à-dire que on est tout le temps en train de sourcer du catalogue et on fait pas assez de rencontres pour justement signer à chaque fois 5 6 projets à chaque fois qu'on se déplace. Et donc on a aussi ce besoin d'aller en dehors du réel et d'aller chercher aussi d'autres perspectives. Mais bien sûr que dans mon cas de figure, aujourd'hui, je dirais que la moitié des signatures qu'on a fait sur le label, c'est soit des coups de cœur, soit du réseau, soit des personnes que j'ai connues avant même qu'on se parle en vrai d'une vraie distribution. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés pour X ou Y raison, et après on a eu une affinité, on a eu une envie de travailler ensemble qui surpasse parfois les chiffres, l'esthétique. Moi, il y a des personnes avec qui je travaille, je suis pas tant dans leurs esthétiques, mais j'adore l'humain qui est derrière. Je crois au projet, je crois à la force en fait que l'environnement du projet a à donner, et j'ai envie d'être le soutien. Et pour ça, je regarde pas forcément les chiffres tout le temps. Donc je dirais qu'il y a une bonne moitié de notre catalogue aujourd'hui qui a été signé sur des vrais coups de cœur humains, et il y a aussi une partie de notre catalogue qu'on a nous-mêmes démarché, c'est-à-dire qu'on a été voir des projets qui étaient pas forcément en demande, mais on leur a dit voilà, vous avez une belle évolution, nous on a des outils en fait à vous proposer pour continuer ce développement-là, et venez, on le développe ensemble. Et donc forcément, on devient partie prenante sur le projet, on ne devient pas un prestataire, on devient vraiment un partenaire du projet. Et donc c'est aussi là où c'est important pour nous d'avoir des garanties sur quelqu'un qu'on ne connaît pas encore. Et c'est là où les chiffres sont intéressants.
Là, tu parles de ton activité en tant que label. Tu as une partie de toi-même qui est prestataire, donc tu es le premier à pouvoir appliquer ce que tu vends comme prestataire à tes propres artistes.
Exactement. En fait, nous, on propose des synergies avec nos activités sur les catalogues qu'on signe. Donc on va proposer aussi forcément aux projets qu'on va signer de leur donner en fait la prestation. C'est-à-dire que nous, il y a des services qui sont payants. Le consulting marketing de base, la création d'une stratégie digitale, la mise en place d'une stratégie digitale, tout ça sont des choses qu'on fait payer, pour lesquelles on nous appelle aujourd'hui pour faire de la presta externe. Et effectivement, il y a plein de projets qu'on a signés en distribution sur lesquels, bah, du coup, derrière, on a été le seul partenaire, mais aussi, du coup, la force de la réflexion stratégique, la force de la diffusion derrière, de comment on l'a travaillé, et tout ça en dépit de toute loi marketing, je dirais. C'était pas du tout dans l'optique de faire du chiffre. Il y a encore une place pour ça aujourd'hui. Ouais.
Est-ce que je vais caricaturer les choses. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, accompagner un artiste en développement, toujours, après on peut passer toute la nuit à discuter de qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est plus justement travailler cette data, réfléchir à une stratégie de présence sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, etc., plus que l'accompagner à être bon sur scène et à savoir se servir d'un studio?
Alors, dans mon cas,
j'ai prévenu que je caricaturais. Hein,
alors, mais... dans mon cas, complètement. Oui. En fait, déjà, moi,
au-delà de ton activité, parce que toi, alors... effectivement, tu t'es positionné là-dessus, mais c'est sur ça. Ta vision de l'artiste globalement et du développement d'artiste.
En fait, je reprends mon cas de figure quand même pour expliquer ma pensée. C'est que moi, aujourd'hui, je suis pas artiste. C'est-à-dire que moi, dire à quelqu'un que tu fais de la bonne ou de la mauvaise musique, c'est pas tant mon rôle. Mon rôle, c'est plus de voir est-ce qu'il y a une exploitation possible ou pas et comment on peut l'exploiter au mieux. Pour moi, aujourd'hui, il y a un public pour toutes les musiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une musique qu'on ne pourrait pas travailler. Après, il y a des musiques sur lesquelles on aura plus envie d'aller. Il y a des musiques sur lesquelles on aura plus de facilité à aller. Il y en a sur lesquelles on a plus de data, par exemple. Moi, j'ai lancé énormément de campagnes sur mon agence. Je sais qu'aujourd'hui, un projet rap français, par exemple, je sais que je peux le travailler très facilement, j'ai toute la data possible, je sais exactement comment je peux mettre en place une stratégie. À l'inverse, si demain on m'envoie un projet de rock polonais par exemple, je vais peut-être avoir besoin d'avoir un temps de réflexion, de me faire ma petite idée sur comment marche le marché, comment marchent les groupes qui sont implantés, comment ils font leur promotion. Donc c'est vrai que j'ai un rapport qui va être plus quand même porté sur comment on va l'exploiter, plus que est-ce que la musique elle fait sens pour moi, comment je vais pouvoir la diffuser. Enfin, c'est vrai que dans ma vie, dans mon quotidien de tous les jours, je vais beaucoup plus avoir des logiques marketing que des logiques artistiques, parce qu'en fait c'est moins ma légitimité, je dirais, d'aller faire des retours sur l'artistique ou de prendre un projet parce que j'ai vraiment une affinité artistique.
Donc point d'alerte, la connaissance de la data et la manière dont un artiste se développe ne fait pas de toi un directeur artistique?
Ah non, vraiment pas.
Et toi, surtout pas t'emmener là?
Ah non, surtout pas. En tout cas, moi j'ai pas du tout la prétention de, quand on développe un projet, de dire que on a influé vraiment sur sa création, sur son projet. Ça émane de l'artiste. Ce que nous on a fait derrière, c'est le présenter en fait aux bonnes personnes pour que son projet soit bien reçu. C'est la seule, le seul crédit qu'on peut donner à notre activité, je dirais, c'est ça. Sur la partie artistique, absolument. Ouais.
Florent, une question à tiroir. Alors, la place de la data dans ton travail au quotidien, effectivement. Et il me semble que dans le live, il y a beaucoup de data qui peut être récupérée, mais il y a des énormes trous dans la raquette qui vous empêchent d'aller plus loin, me semble-t-il.
Ouais, ou alors complètement, mais surtout avant de répondre à ça, j'ai envie de dire que sur tous ces outils-là, je les connais, enfin en tout cas SoundChart connaît, on utilise, etc., mais faut pas oublier, faut un peu peut-être démystifier la data, c'est-à-dire que la data, on en a tous, et il y a des salles, il y a des gérants de salles ou de festivals, là, la data, on l'a, si on met en place, par exemple, la billetterie, etc., c'est des données qu'on a déjà, faut pas chercher très loin, je veux dire, la donnée, c'est des choses qu'on peut déjà avoir, et qu'il faut savoir s'en servir. Je prends pour exemple, nous, Gauche de Lune, on aime bien prendre un artiste, que ce soit un coup de cœur ou autre, ou bref, de commencer tout petit avec lui. Donc ça va être, pour prendre l'exemple de Lille, un Café Bulle ou une péniche quand ça existait, et de l'amener le plus haut possible. Hier, par exemple, on a annoncé Big Flo et Oli au stade de Lille. Alors c'est évidemment, ça paraît une évidence aujourd'hui, sauf que le tout premier concert qu'on a fait, le tout premier concert qu'ils ont fait en dehors de Paris, c'est nous qui l'avons fait, c'était à la péniche. Et c'est avec ça où on a travaillé.
Je dis ça de mémoire, sans place.
Sans place, ouais. Et c'est justement avec la data qu'on a récupérée de la péniche, les acheteurs, c'est 100 personnes qui sont venues. On les a accompagnés, on les a rappelés, on leur a dit attention, on va faire d'autres dates, et on a accompagné comme ça. Enfin, je dis ça pour dire que la data, c'est vraiment quelque chose qu'on a tous dans notre quotidien, etc. Et il faut savoir juste l'analyser. Il faut s'en servir, parce qu'on sait tous s'en servir. Mais bon, bref, il n'y a pas besoin. Ce que je veux dire, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas besoin d'outils ultra perfectionnés pour commencer dans la data. On peut s'en servir tous les jours, et puis il y a des choses évidentes.
Un outil basique de billetterie et une notion de CRM, et puis
Ouais, ouais, c'est ça. Mais même un fichier Excel, hein, si on voyait le back office de qui distribue, c'est pas très beau, hein. Mais voilà, juste un fichier Excel où on sait, par exemple, tous les concerts que l'on a fait. On en parlait juste avant. Nous, dans le live, la data la plus importante, c'est le nombre de billets vendus sur un artiste. C'est ce qui nous intéresse au final, c'est de vendre des billets. Et du coup, on a pris un exemple. Je vais peut-être changer, peut-être pas pour reprendre Christophe Maé, mais pourquoi pas. Christophe Maé, si on veut le faire, je sais pas, à Amiens ou ailleurs, on se demande on l'a déjà fait dans d'autres villes, etc. Donc du coup, combien de personnes on a fait dans cette ville-là, c'est une data qu'on peut utiliser, c'est des contacts que l'on a, donc du coup j'ai perdu un peu le fil, mais voilà, c'est des choses en tout cas que l'on peut utiliser, c'est des data ultra simples et ultra accessibles, et il faut pas oublier justement toutes ces data que l'on a. On n'a pas forcément, moi quand je suis arrivé à Gauche de la Lune, j'étais passionné par ça, mais c'est pas des data qu'on utilisait en tout cas avant. Je donne l'exemple aussi de la promo pour des concerts. Comme on a l'adresse des gens, en tout cas des acheteurs, on voit pour un concert de Christophe Maé, alors je dis n'importe quoi, tous les acheteurs sont dans le Vieux-Lille par exemple. Du coup, pour aller coller des affiches, on va peut-être pour le prochain concert, on va plus aller dans le Vieux-Lille. Et du coup, je crois que ton activité fait exactement ça. Ça permet de réduire aussi le coût des dépenses liées à la promotion, etc. Et ça, c'est de la data que l'on a. Et il faut pas avoir de connaissances ou quoi que ce soit. C'est de la data qu'on a. Donc, faut juste savoir se servir de la première data, celle que l'on a. Et ça peut être très simple aussi. Non, parce que j'ai pas répondu.
Et donc, les trous dans la raquette, parce qu'il y en a quand même pour vous. C'est qu'effectivement, vous n'êtes pas toujours maître de la billetterie. Donc il y a des grosses absences de data sur des sujets risqués en plus économiquement.
Oui, alors il peut, évidemment, c'est toujours, de toute façon, chaque concert que l'on fait est toujours un pari. Alors il y a des paris beaucoup plus faciles que d'autres, mais évidemment que c'est un pari. Et quand on n'a aucune connaissance, on peut se fier à, alors on va aller voir le nombre de likes qu'il peut y avoir, des trucs très basiques, ou alors faire une interrogation de Sunchart, mais ça ne dit pas à Lille ce que ça peut peser, et ça peut être ouais, complètement un pari, et c'est il y a ce genre de trou dans la raquette. Après, nous, à Gauche de Lune, on a développé notre système de billetterie. Donc, toutes les productions que l'on fait, à quelques exceptions prêtes, mais vraiment pas énormes, on met en vente nous-mêmes. Donc, les trous dans la raquette, on peut les avoir au début. En tout cas, la première fois que l'on fait tel artiste, mais on ne l'aura pas une deuxième fois. Donc, grâce à la data qu'on développe là-dessus, on arrive à compenser un petit peu ces trous dans la raquette.
Justement. Mais pour être certain de bien comprendre, si tu dis effectivement, la data, ce n'est pas forcément... prendre X abonnements à X plateformes et croiser X données. Néanmoins, ces outils-là et la multiplication des outils de ce type, est-ce qu'aujourd'hui, ça fait partie de ton quotidien,
ouais,
quand même,
ouais. Ah oui, complètement. Oui, parce que c'est bien beau d'avoir notre data, mais il faut aller en chercher ailleurs aussi. Et après, évidemment, c'est une connaissance. Tout le monde n'a pas la connaissance informatique de coder, de ramener. Par exemple, pour reprendre l'exemple de Sunchart, ça fait des tableaux de bord, mais en une vision, on sait combien il y a de fans Facebook, de fans Instagram, de fans de tout ce qu'on veut. On voit l'évolution sur les 6 derniers mois, on voit le top des villes, etc. Ça, évidemment, c'est de la data. On a besoin, en tout cas à titre personnel, j'ai besoin de ces outils pour connaître ça, et c'est ultra efficace. Évidemment, c'est des outils ultra nécessaires, parce qu'on n'a pas, on n'a pas ces données-là nous.
Et comme il y a un certain nombre de SMAC dans la salle, toi, à l'endroit où tu es, est-ce que les SMAC doivent avoir un... C'est un peu question tordue, hein, mais est-ce que les SMAC peuvent utiliser ces outils-là? Est-ce qu'elles doivent avoir une utilisation un peu spécifique de cette donnée-là, avec cette mission qui est à la fois de programmer toute l'année, d'accompagner des artistes locaux? Est-ce qu'il y a un mode de conduite?
Voilà, alors en tant que privé, je serais très mal placé de répondre à la place d'une SMAC. Après, oui, ça peut être évidemment un outil. Je pense qu'il faut, de toute façon, tout le monde doit se servir de ces outils à un moment donné. Après, il faut laisser la part aussi au coup de cœur, ce qu'on disait, au coup de cœur, l'artiste qui n'a même pas un compte Instagram ou quoi que ce soit. Si on a un coup de cœur, il faut le faire, évidemment. Et en plus, c'est d'autant plus le rôle des SMAC que d'un privé. Donc là évidemment, je ne sais pas s'ils ont vraiment eu... Ils ont l'utilité, j'ai envie de plus de les laisser parler là-dessus, mais ils ont plus...
C'était un peu ma tentative.
Ouais, ouais.
C'est que quelqu'un réagisse dans la salle.
Cela, je voudrais pas...
Ouais.
S'il faut bien être référencé bien associé pour être bien, pour avoir une photographie.
Alors pour SunChart, en tout cas, ça va extraire les infos déjà de ce qu'il y a sur les comptes Instagram, ça va Spotify ou quoi que ce soit, et après on peut faire la modification manuellement, on peut ajouter, etc. Mais il y a déjà un énorme travail qui est fait. À chaque fois que je cherche un artiste dessus, il y est, que ce soit un tout petit, il y est déjà. Je sais pas si c'est les... Okay.
Nicolas, je te voyais réagir.
Après, on intègre complètement le privé. Son objectif, c'est de vendre du billet. Donc, il va s'appuyer sur le point commun de tous les applis qui ont été présentés, c'est le marketing. En fait, c'est les outils d'aide à la vente. Voilà. Nous, il faudrait qu'on puisse croiser en fait avec un tableau. Hein, parce avec les SMAC, on d'abord remplisse un cahier des charges sur les diversités esthétiques, sur un degré d'émergence dans la programmation. Donc, inversement à son utilisation, peut-être que comme aujourd'hui, le modèle des scènes de musique actuelles est en pleine mutation. Beaucoup plus de festivals intégrés au SAB, beaucoup plus on a vu post-Covid des grosses programmations, surtout pour remplir aussi des caisses des scènes de musique actuelles. Donc peut-être que cet outil peut effectivement servir à trouver davantage le bon prix dans le fait de produire des plus gros artistes, des plus gros événements dans les SAB, même si. Historiquement, c'est quand même le métier des promoteurs locaux et des producteurs de faire ça. Après, ce qu'il faut regarder sur l'autre partie qui est financée par nos partenaires institutionnels, c'est l'émergence. Et c'est vrai que l'émergence, on peut effectivement s'appuyer sur des outils comme ça, mais tout en gardant le fait que nous, on a aussi nos data qui sont de répondre à un cahier des charges de diversité, de groupes régionaux, ça, il n'y a pas d'appli.
Faudrait rentrer les cahiers des charges dans ChatGPT et puis les interpréter, les résumer et puis peut-être essayer de plugger ça à ces outils-là. Je sais pas si vous avez envie de réagir à ça. Mais enfin, moi je me permets parce que c'est pour ça que je tendais la perche aussi, c'est que au final, vous n'êtes pas au même endroit, mais j'ai l'impression qu'une certaine SMAC, à travers un cahier des charges, effectivement, qui émane des institutions, vous faites le même métier qu'Anthony. C'est-à-dire que vous faites du développement d'artistes. Pas dans le même objectif, lui fait tourner une boîte privée, effectivement, etc. Vous n'êtes pas sur une logique nécessaire de retour sur investissement, mais vous faites le même métier. Donc c'est à cet endroit-là aussi que moi je m'interroge sur pourquoi ces outils-là ne sont-ils peut-être pas aujourd'hui dans le métier de... Mince, je suis en train de perdre le... Elles ne sont pas dans le métier, effectivement, dans vos métiers. C'était dans ce sens-là. Mais, parce que je pense que vous faites la même chose. À cet endroit-là.
Ouais, je pense qu'on fait la même chose. Moi, personnellement, j'ai travaillé avant à la FEMAG, qui est la Fédération des Musiques Actuelles du Gard, donc qui est un réseau en fait d'associations musicales. Et en fait, on faisait beaucoup de repérages sur les concerts. C'est-à-dire que moi, avant de m'intéresser à la data, j'étais vraiment justement un acteur de musique locale, avec pour rôle d'accompagner justement les porteurs de projets qui étaient sur ce territoire. Et on les faisait beaucoup à la rencontre. Là où aujourd'hui, dans mon activité, c'est beaucoup plus dur d'aller à la rencontre de tous les projets qui pourraient avoir besoin de promotion. Et surtout, je ne me cantonne pas au territoire. C'est-à-dire que nous, on a une activité qui est même internationale aujourd'hui. Et donc forcément, que c'est beaucoup plus dur aujourd'hui, par exemple dans ma position, d'aller faire une étude de mon territoire. Parce que mon territoire est quand même très large. Et aujourd'hui, je ne peux pas forcément prendre le temps pour chaque artiste. Ce qui était le cas quand mon territoire, à l'époque, c'était un département. Et que ma mission, c'était justement d'accompagner les porteurs de projets de ce département. Et c'est là où je pense que les SMAC, pour l'instant... ou en tout cas, la data de façon générale n'est peut-être pas forcément à l'ordre du jour sur l'accompagnement d'artistes, puisqu'en fait, le vivier d'artistes, vous le voyez, il se déplace sur les événements pro, il se déplace potentiellement sur des actions culturelles, sur toutes les activités que vous pouvez avoir. Et donc, il y a peut-être plus un repérage qui se fait à l'humain et en réseau réel que sur du numérique. Mais je pense que c'est quelque chose qui va être amené à changer. Si on prend l'exemple à Paris, par exemple, où le vivier d'artistes est quand même énorme, je pense qu'à un moment, il va y avoir du repérage qui va être fait aussi via la data. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment une agence sur Paris, par exemple, pourrait faire sa sélection dans le panel d'artistes qu'il y a à proposer. Il y a vraiment un vivier d'artistes locaux qui est très fort, on le voit sur les tremplins. Un Inouï du Printemps de Bourges à Paris, c'est 4 soirées de concert où il y a quasiment 10 groupes qui passent. C'est énorme, en fait, en termes de repérage. Et donc, je pense que dans un monde où tout est de plus en plus gros, pour pouvoir filtrer, on a besoin d'avoir des outils. Mais effectivement, peut-être que sur certains territoires, l'humain prend encore le pas dessus, et tant mieux. Très honnêtement, je suis le premier à... Enfin, je développe des artistes en local. Je suis le premier à compter sur le soutien des SMAC à l'humain, parce que justement, on ne va pas regarder où est-ce qu'en est l'artiste à l'instant T, on va plutôt voir qu'est-ce qu'il fait sur le territoire. Est-ce qu'il fait un peu d'action culturelle? Est-ce qu'il est en voie d'intermittence? Est-ce qu'il est en train de se professionnaliser? Est-ce qu'il vient dans la salle, par exemple? Et ça, c'est des choses qui sont même plus importantes que le nombre de fans qu'il va avoir sur Instagram.
Est-ce qu'aujourd'hui, pardon, je vous en prie.
En fait, je me demandais si aussi... Bon, alors, je me permets ce genre de questions. Le côté capitaliste du truc, c'est à savoir, est-ce que ça ne va pas créer des inégalités? Parce qu'il y aura aussi des enjeux financiers, du coup, même au niveau des applis, parce que quelque part, ce sont des entreprises qui ne sont pas forcément... Enfin, tous ces services-là, c'est des employés aussi, c'est pas gratuit. Et du coup, ça sera peut-être aussi le client qui donnera un peu plus, qui aura le meilleur service et qui pourra peut-être faire... peut-être que certains artistes ne pourront pas profiter, peut-être des entités artistiques ne pourront pas profiter aussi de tout ça. Enfin voilà, tout ce qui est financier.
C'est quoi la transparence de la data et c'est quoi le partage de la data?
Là, on en a parlé juste avant, justement. C'est une grosse question. Moi, je, à titre personnel, je suis pour que toute la data soit absolument accessible par tous et par tout le monde. Mais en effet, oui, c'est une très bonne remarque. Ça peut être la finalité. Ça peut être des choses comme ça. Et ce serait bien dommage. Mais je veux pas prédire l'avenir, mais je pense qu'on est... On est tous déjà des passionnés de musique, je pense, déjà pour travailler dans ce milieu-là. Donc du coup, on peut, on le voit par exemple quand on nous propose des artistes, etc. On va voir, par exemple sur Soundchart, si on nous dit que demain l'artiste qu'il faut faire absolument, c'est de la bossa nova. Je n'ai absolument rien contre la bossa nova, mais juste on ne sait pas travailler la bossa nova. Du coup, on va pas y aller juste parce que la data nous dit d'y aller. Donc il y a un côté quand même énormément humain qui intervient aussi là-dessus. Donc je pense qu'il y a aussi il y a l'humain qui est derrière la data, et je pense que c'est peut-être la finalité aussi de cette discussion. Mais voilà, je pense que c'est quand même il y a un aspect ultra important là-dessus. Il faut pas tout miser sur la data non plus. Il faut pas tout. Voilà. Je sais pas si.
Après, je pense que aujourd'hui, les grosses maisons de disques ou les gros labels, ils ont déjà les équipes et les outils et l'accès à plein de data qu'ils exploitent déjà. Et du coup, j'ai l'impression que des outils comme Soundcharts ou ceux qu'on a parlé depuis tout à l'heure permettent de remettre aussi justement un peu d'équilibre là-dedans, puisqu'ils donnent à des gens plus indépendants ou à taille plus humaine l'accès à ces données, et donc de pouvoir eux aussi finalement les utiliser à des fins, à des bonnes fins.
Ce qui est une autre manière de dire ce qu'a déjà dit Anthony, c'est que finalement ces outils-là sont d'autant plus favorables à des artistes en développement, à des labels indépendants, face à la grosse machine du showbiz, si on caricature.
Tout à fait. En fait, des outils comme ça, ça permet à chacun d'avoir conscience de sa data et que ce soit plus quelque chose de caché, mais que vous puissiez, vous simplement, en vous inscrivant sur un site, aller voir aussi comment vous êtes dessus, comment vous pouvez vous situer avec d'autres artistes aussi. Et c'est vrai que à l'époque, tout ce dont on est en train de parler là, l'industrie l'a très bien compris. La data dans l'industrie, ça existe depuis longtemps. Si je prends l'exemple de Belief, par exemple, qui sont les mastodontes du digital, c'est une boîte de tech, clairement. Hein. On est depuis 20 ans sur de la technologie. Leur but, c'était pas forcément de vendre des CD. Ça a été direct de vendre de la musique dématérialisée. Donc en fait, je pense que tout ça, ça permet aujourd'hui de combler un peu ce retard et de donner aux indépendants les mêmes armes que ont justement ces DA de grosses maisons qui ont des outils de suivi qui sont peut-être les mêmes que ceux-là, mais qui les ont depuis très longtemps. Aujourd'hui, vous redevenez un peu propriétaire de ça et vous pouvez avoir la main dessus et vous pouvez surtout utiliser ces mêmes outils pour votre développement. Si je vous donne un exemple, pour aller chercher une collaboration, demain, vous voulez trouver un artiste qui est à peu près dans le même niveau de développement que vous, Soundchart, c'est génial. Vous allez pouvoir croiser des audiences similaires, vous allez pouvoir voir à quel artiste à peu près vous êtes matché par la plateforme. et vous pouvez potentiellement derrière déboucher sur une collaboration. Et ça, c'est un outil que les labels ont depuis longtemps. Enfin, très honnêtement, la data là-dessus, ils l'ont depuis un moment. Aujourd'hui, n'importe qui peut aller s'inscrire gratuitement. Alors, gratuitement, je m'avance peut-être, je suis pas sûr que ce soit gratuit. Mais en tout cas, peut aller s'inscrire et aller récupérer sa data. Désolé, je fais une...
Oui, il y a un modèle économique quand même.
Pardon.
Les artistes, on l'a bien dit, hein, c'est pas un outil pour faire de la direction artistique, etc. Néanmoins, dans la relation aux artistes, et ça vous concerne tous les deux, parce que effectivement, je reviens sur l'exemple Big Flo et Oli que tu citais, mais dans la manière d'accompagner des artistes à l'endroit où vous êtes, dans la relation avec l'artiste, est-ce qu'à un moment donné, la data, ça doit être un sujet là, tu fais pas assez ci, tu fais pas assez ça, change de rythme, sois plus présent là-dessus. Ou sur le live, on sait que via Spotify for Artists, par exemple, on peut savoir si tel titre est particulièrement joué à Lille et plus qu'à Strasbourg, et que donc le set, on va un peu le changer pour. Voilà. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est dans les échanges que vous avez avec les artistes ?
Pas tant. Enfin, de mon côté, en tout cas, pas tellement. On va les inciter forcément à utiliser ces outils, puisqu'on est bien conscient que ça participe à leur développement et à leur exposition et à l'exploitation de façon générale de leur musique. Par contre, non, on va pas forcément les pousser vraiment à le faire. Moi, j'ai des artistes, par exemple, qui détestent prendre la parole sur les réseaux sociaux, qui détestent faire une vidéo face cam en incitant les gens à aller écouter leur projet, ce que je peux comprendre. Pareil, j'ai beaucoup d'artistes qui sont réfractaires à TikTok de façon générale. Alors qu'aujourd'hui, si vous regardez le top 200 France, tous les morceaux qui ne sont pas signés sur des grosses maisons sont quasiment tous des buzz TikTok. Bah, ça, malheureusement, pour moi, il y a des choses qui font l'essence d'un artiste. Il y a des artistes qui aiment être dans l'ombre. Il y a des artistes qui veulent prendre la parole que quand ils ont quelque chose à vendre, entre guillemets, qui veulent pas montrer de lifestyle ou de contenu personnel ou quoi. Bah, ça, je trouve que pour nous, il faut le respecter. Et ça fait partie de l'identité de l'artiste, de sa singularité. Et on peut pas pousser un artiste à aller être super actif sur TikTok juste parce qu'on veut des followers et qu'on veut du streaming. C'est pas du tout notre enjeu aujourd'hui. Nous, on est vraiment à l'écoute des artistes et on va leur proposer des solutions qui sont cohérentes aussi aux besoins qu'ils nous font ressentir. L'idée, c'est pas de surdigitaliser un artiste qui a envie de vivre dans le réel. Quelqu'un qui a envie de faire un développement en dehors du streaming, on va pas le pousser à tout prix à signer un deal de distrib numérique et à aller faire de la pub ads sur les réseaux sociaux. À l'inverse, on va peut-être essayer de réfléchir avec lui sur une stratégie un peu plus locale, peut-être un peu plus réelle. On va essayer en tout cas d'être les bons conseils et de pas, comme je disais, surdigitaliser des gens qui n'ont pas forcément envie de l'être. Nous, on veut vraiment respecter la volonté de l'artiste et notre rôle, en tout cas, c'est de vraiment bien le conseiller dans son développement, s'il en a envie en tout cas, sur ces plateformes-là. Et ça va être du coup du conseil forcément sur les plateformes de streaming, donc comment se référencer par exemple, comme on avait vu, mais aussi ça va être comment se présenter, quelle photo tu utilises, quel bio tu mets, comment tu renvoies vers tes réseaux sociaux, comment on crée des tunnels entre les différentes plateformes, comment on fait que ses auditeurs Insta aillent sur Spotify. Mais ça, on le fait pas sur tout le monde. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas envie de développer, par exemple, Instagram, on le forcera jamais à y aller. C'est forcément quelque chose en plus, mais il faut que ça reste cohérent. Moi, j'ai plein d'artistes, par exemple, qui veulent pas aller sur Twitter. Je les respecte complètement. Ils ont raison. S'ils ont pas le ton et s'ils ont pas l'envie d'aller sur la plateforme et que c'est une plateforme qui va à l'encontre de leur volonté, on forcera jamais personne à y aller juste pour aller faire du chiffre. Il y a vraiment une notion de co-construction du projet, en fait. Nous, on va essayer de donner les bonnes solutions pour exploiter la volonté de l'artiste, mais on partira toujours de la volonté de l'artiste. Ce ne sont pas les data ou les réseaux qui vont dicter le chemin de carrière d'un de nos projets, en tout cas chez nous.
Florent ?
Nous, pour le live, en tant que promoteur, on s'adresse particulièrement aux producteurs. On n'a pas vraiment de lien avec les artistes que l'on fait tourner, à part après le concert aller boire un verre avec eux, mais ça s'arrête là. Donc on ne leur donne pas de conseils, en tout cas ouais. sur les setlists
mais
après
vous
voir.
Avez votre écurie.
Mais on a notre écurie, oui, bien ouais. sûr. Mais après, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui font justement qui prévoient leur setlist des concerts en fonction des titres les plus écoutés dans chaque ville, etc. Et ça change. Je crois que c'est Ed Sheeran qui a parlé là-dessus, qui a fait ça, mais il y en a plein d'autres. Donc c'est quelque chose, oui, que du côté booking. Du coup, je suis à gauche de la ligne, fonctionne et bien sûr, on peut leur donner des conseils, mais comme je suis sur la partie pro, de les laisser dire là-dessus, malheureusement. Pas trop d'avis.
Mais Metallica faisait ça.
Ouais, non, mais aussi, ouais, complètement. Il y a des artistes qui. Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ?
Ça s'écrit comment qui est distrib ?
Alors.
Moi, j'aurais écrit K-I, mais.
Ouais, mais ça faisait un peu trop Kiloutou. Mais c'est Q-U-I-D-I-S-T-R-I-B.
Okay. Tout simplement. Est-ce que là on a fait une revue et c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps à évoquer Soundchart. Tiens, je vais changer, je vais mettre sur relax ticket. Est-ce qu'il y a des outils ou des approches des outils au-delà de la data d'ailleurs, parce que c'est vrai que j'ai mis algorithme, on pourrait parler effectivement, on l'a un peu évoqué, les plateformes de stream, la gestion de l'algorithme, la présence dans les playlists, etc. Est-ce qu'il y a des outils ou des sujets qui aujourd'hui voilà, sont d'autres, qui sont cruciaux pour vous?
Moi personnellement en particulier, on en parle, l'algorithme sur les plateformes de streaming, c'est aujourd'hui une de nos grandes priorités déjà, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, comment fonctionne l'algorithme de recommandation d'une plateforme de streaming.
J'allais te poser la question, c'est ça, c'est est-ce qu'aujourd'hui dans ton métier tu considères que tu sais comment ça marche?
On essaye en tout cas de jouer avec. Alors pour vous donner un ordre d'idée, avec les plateformes de streaming, avec les algorithmes de façon générale, on n'aura jamais accès au programme qui va nous dire comment tel morceau il est sélectionné pour atterrir dans le Discover Weekly de Spotify. Je ne sais pas si ça vous parle. Le Discover Weekly, c'est en fait une playlist qui est dédiée à chaque auditeur, dans lequel, selon ses habitudes d'écoute, on va lui proposer d'autres morceaux d'artistes d'artistes qu'il ne connaît pas forcément. Et donc, mon objectif aujourd'hui, quand je travaille un projet, une des finalités, c'est d'apparaître dans ce Discover Weekly, puisque c'est Spotify qui va vous donner de la promotion gratuite. C'est-à-dire que c'est Spotify qui va se baser sur vos auditeurs actuels et qui va pouvoir vous solliciter un autre pool d'auditeurs. Plus ces tests vont être concluants, plus Spotify va vous recommander. Et donc, en fait, plus vous allez faire de stream, plus l'audience de votre titre va évoluer. Et donc, effectivement, nous, aujourd'hui, il y a un vrai enjeu de savoir déjà comment on joue avec cet algorithme, comment on fait en sorte d'être recommandé aux bonnes personnes. Et il y a, un tip que je peux vous donner comme ça, et qui est une des choses sur lesquelles on travaille. On demande à nos artistes de créer des playlists à eux. C'est-à-dire de se créer une playlist où ils mettent leur catalogue. Et dedans, on va leur demander de mettre tous les artistes associés pour lesquels ils pensent partager une affinité artistique ou une affinité d'audience. Je vous donne un exemple. Imaginons, moi, j'ai une chanteuse aujourd'hui qui fait un peu le même style que Pomme. Je vais lui dire, tu crées une playlist. Dedans, tu mets les 10 artistes avec lesquels tu penses que tu as le plus d'affinité. Ça peut être, je sais pas, Angèle, Pomme, n'importe qui en chanson française. L'idée, ça va être de se créer une playlist, de la faire streamer par des utilisateurs et en fait, de donner de la data à Spotify. Faire en sorte que quand un auditeur va écouter la playlist, il va écouter à la fois vos morceaux et aussi les morceaux d'artistes pour lesquels vous aimeriez être approché. Et donc ça, en fait, ça va jouer sur votre algorithme, puisque derrière, quand Spotify va vous suggérer à des autres auditeurs, il va utiliser la data qu'il a, et donc il va utiliser la data que vous avez potentiellement créée via votre playlist. Si vous, vous faites streamer vos auditeurs sur votre playlist et que vous matchez avec d'autres artistes, en fait, de fait, derrière, vous allez être présenté à des auditeurs de ces artistes-là. Et donc ça peut être une des façons de jouer avec l'algorithme. Aujourd'hui, il n'y a pas de recette miracle, je vous donne celle-là, parce qu'elle fait partie un peu des logiques que nous, on essaye d'avoir, et de façon générale, dans les playlists qu'on essaye de cibler, nous, on a une activité assez grosse en termes de curation de playlists sur notre catalogue. On place, en fait, les morceaux qu'on distribue dans des playlists. On réfléchit aussi de cette même façon. C'est-à-dire qu'on va se dire, OK, dans quel mood, à quels artistes ça se rapproche, et du coup, dans quelle liste on doit l'intégrer pour que derrière, l'algorithme puisse suggérer ce morceau à des bonnes personnes, à des personnes qui sont pertinentes, et qu'en fait, le morceau continue à vivre, même une fois que notre promotion, elle s'arrête. Et ça, effectivement, c'est un de nos gros enjeux aujourd'hui, de savoir comment, en fait, on arrive un peu à craquer la plateforme pour qu'elle nous recommande après au bon public et qu'elle le fasse sans qu'on ait à mettre d'argent sur du marketing d'ads, puisqu'en fait le but premier de cet algorithme, c'est d'accumuler de la data pour faire en sorte que derrière ça se fasse tout seul. C'est-à-dire que pour nous aujourd'hui, on est un peu comme des fers de lance. On va chercher à amener beaucoup d'auditeurs, donc via le marketing d'ads, le marketing d'influence sur un profil. L'idée étant que derrière ce profil, il doit générer des streams de lui-même, il doit se faire reconnaître un peu par la plateforme pour que derrière il soit suggéré aux bonnes personnes et qu'on ait un vrai développement qui soit logique mais qui dépend en fait d'un programme créé par Spotify.
Si on reste sur ces plateformes de stream, tu considères qu'aujourd'hui dans les outils qu'elles donnent, j'ai évoqué Spotify for Artists par exemple, dans le, j'ai envie de dire, le back-office qui est un peu accessible pour des artistes ou pour des gens qui accompagnent des artistes, elles jouent le jeu, c'est réellement pensé comme étant finalement un...
Alors, dans le cadre de Spotify, je trouve qu'ils sont quand même très transparents. Ils donnent accès à beaucoup de data. Après, toutes les plateformes ne sont pas comme ça. Effectivement, aujourd'hui, vous ne pouvez pas récupérer votre data sur toutes les plateformes. À ma connaissance, aujourd'hui, la plupart des grosses plateformes le permettent. Spotify, Deezer, Apple, Amazon, et je crois même YouTube maintenant, vous permettent d'avoir un accès à vos data, à votre profil, même sur les plateformes, parce qu'il y a certaines plateformes sur lesquelles vous ne pouvez même pas toucher votre profil. Vous ne pouvez même pas changer une photo de profil. Sur Napster, par exemple, il n'y a pas de Napster pour artiste, il n'y a pas de support artiste. Au-delà de passer par la technique en distribution, et ça n'existe pas. Donc je pense qu'il y a encore un peu un manque de pouvoir donner de la data justement aux artistes sur toutes les plateformes. Par contre, si je prends l'exemple de Spotify, c'est super bien fait. Vous pouvez avoir le nombre d'auditeurs, le nombre de streams, d'où ils viennent, vous avez le taux de repeat, vous avez votre taux de save, vous avez quand même énormément de data qui peuvent vous permettre justement derrière de connaître un peu plus votre public. Vous pouvez savoir l'âge des personnes qui vous écoutent, d'où ils viennent. Je crois même que vous avez la répartition par sexe des auditeurs. Enfin, vous avez quand même énormément de data qui peuvent vous permettre justement derrière vous de vous positionner. Il y a aussi une data importante de Spotify, c'est ce que les fans aiment aussi. C'est les artistes en fait qui sont écoutés autres que vous par vos auditeurs. Et ça, c'est pareil, ça, c'est un pool sur lequel vous pouvez aussi jouer, par exemple, de lancer justement des campagnes de marketing sur les auditeurs de ces artistes-là. Puisque de fait, vos auditeurs écoutent aussi ces artistes-là. Peut-être que l'inverse peut aussi se faire, et donc ça peut être intéressant d'aller viser ces communautés-là. Donc il y a, je dirais qu'aujourd'hui, il faut se servir des plateformes qui vous donnent de la data pour vous essayer un peu d'alimenter votre projet et de faire des tests aussi sur différentes audiences, par exemple. Mais c'est vrai que toutes les plateformes sont pas... Enfin, certaines sont quand même très opaques sur la data, voire vous ne vous donneront aucun chiffre. La seule chose que vous pourrez avoir, c'est le nombre de streams que vous avez généré et, entre guillemets, combien elle vous a payé pour ça.
Tu vois, la tech vient de s'écrouler puisque j'ai plus de batterie. La boule de cristal, c'est vrai qu'on... Et j'ai entendu plusieurs personnes, parce qu'on avait utilisé le mot du moment, enfin les mots du moment, intelligence artificielle. Votre regard sur le côté, si on prend une boule de cristal, on parle énormément d'intelligence artificielle. La différence, contrairement à des technologies comme la blockchain, qui sont toujours un peu plus early adopters, qui privilégient quand même des gens qui viennent de la tech, qui ont une appétence très forte pour la tech, c'est que ChatGPT, on en parle aux 20h de TF1, et que, bon, moyennant un peu de finance, tout le monde peut l'utiliser. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous prenez votre boule de cristal, c'est que, voilà, qu'est-ce qui va se passer dans les mois et les années à venir? Ou de quoi rêvez-vous, j'ai envie de dire?
Moi, à titre personnel, on s'en sert pas mal. Je m'en sers pas mal de ChatGPT, etc. C'est surtout pour des calculs un peu compliqués où je ne sais pas faire tout simplement. C'est par exemple prédire à combien un concert va se terminer en termes de nombre de billets vendus. Sachant qu'on a tant un temps de vente qu'il y a Noël, qu'on sait parfaitement qu'à Noël on va faire plus 20%, etc. On sait qu'il y a les vacances et du coup ça réduit un petit peu. Enfin bref, on rentre tout ça. Je m'amuse souvent à rentrer tout ça dans ChatGPT et ça donne un peu. Ça nous permet de savoir à combien on va terminer. Grosso modo. Et généralement c'est quand même assez fiable si on remplit les bonnes choses. Donc moi je m'en sers beaucoup comme ça. Après,
donc on est bien dans cette notion de prédictif.
Oui, complètement. Oui, complètement. Et du coup, je trouve que ça a une grande utilité là-dessus. Après, évidemment, c'est très vaste et il y a plein d'autres utilités. Mais là, je ne sais pas comment chacun peut s'en servir. Mais je sais que pour prédire, en tout cas, le nombre de billets vendus, ça, parfois, c'est assez juste. Donc, on s'en sert pas mal là-dessus.
Ouais. Moi, j'avoue, j'ai des utilisations diverses sur ChatGPT, en l'occurrence, si on prend cet exemple, notamment pour la rédaction de pitch. Je ne sais pas si vous savez tous ce qu'est un pitch. En fait, c'est un petit texte de 500 caractères qui doit présenter votre morceau, en fait. Et c'est ça qu'on envoie aux éditeurs de playlists pour espérer avoir une mise en avant sur les plateformes. Quand on parle de playlist éditoriale, en fait, on parle de ça. Donc, c'est des playlists officielles gérées par les plateformes et qui demandent, en fait, un petit pitch. Ça, aujourd'hui, nous, c'est quelque chose qu'on fait rédiger par ChatGPT, tout simplement parce que, déjà, on manque un peu d'inspi, on en a écrit un paquet. Et plutôt que reprendre toujours les mêmes termes et le même modèle, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a plus ou moins appris à ChatGPT à rédiger un pitch et on lui demande de faire des pitchs en 500 caractères sur des morceaux. Donc on va lui fournir les lyrics, on va lui fournir des mots-clés, en fait, de genre, d'instruments qu'on a utilisés, de mots-clés qu'on aimerait voir dans le texte, et on va lui demander d'écrire avec un ton journalistique une présentation du morceau en 500 caractères. Et je vous garantis que c'est vraiment choquant ce qu'ils arrivent à faire aujourd'hui. Moi, personnellement, je me cassais la tête des fois pendant une demi-heure à rédiger le bon pitch, parce qu'il faut aussi tomber juste en caractères. faire, c'est pas le tout d'avoir les bons termes, il faut que ça rentre dans le formulaire. Franchement, il y a quand même rien de mieux en termes de gain de temps et en termes d'efficacité, en sachant que même s'il y a un terme ou deux qui est un peu bizarre dans la prédiction, vous pouvez le changer et vous avez votre texte. Et je dois avouer qu'aujourd'hui, nous, on pitch à peu près une dizaine de morceaux par semaine. Ça change clairement notre donne d'avoir cette génération en fait, de pitch qu'on peut faire à l'infini. On peut lui demander d'écrire 10 articles différents sans aucun souci. Franchement, très honnêtement, je pourrais te montrer des pitchs qu'on a fait sur ChatGPT. Ils sont vraiment très bons, puisqu'en fait, on leur donne les mots-clés. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a vraiment envie de voir affiché, on va guider en fait, l'outil avec.
Ce qui fait le distinguo, c'est bien la qualité du prompt.
Alors, bien sûr.
De la question posée à l'intelligence artificielle.
C'est ça. C'est que là où on fait un vrai travail, c'est qu'on alimente du coup pas mal. C'est-à-dire que, vu qu'on le faisait nous-mêmes à la base, on sait ce qui doit être présent et on a su guider l'outil pour que ce soit bon maintenant. Et aujourd'hui, on a un prompt qui est très clair, où on arrive très facilement à générer 4-5 pitchs qu'on pourrait tous utiliser, qui sont vraiment bons, qui collent en nombre de caractères, qui collent même... On demande par exemple dans nos pitchs de citer 3 artistes références, parce que ça permet en fait aux éditos, sans écouter le morceau, de savoir à peu près dans quel vibe ça va être. Bah, même ça, ils arrivent à le faire, très honnêtement. Et pourtant, on leur a pas fait écouter la musique. Et même ça, c'est très précis. Et c'est, enfin, vraiment, l'outil est assez impressionnant pour ça. On s'en sert aussi pour faire des moodboards. Aujourd'hui, nous, quand on doit simuler un décor de clip, plutôt qu'aller faire nos recherches d'images sur un Pinterest classique, bah, ChatGPT, tu génères l'image que tu veux. Pour être honnête, aujourd'hui, c'est un gain de temps fabuleux. Nous, on a voulu faire du fond vert sur un shooting photo. Quand on a voulu un paysage lunaire pour donner à voir à notre photographe, on a utilisé ChatGPT. En 2 minutes, on avait 4 décors différents avec 4 éclairages différents pour un shooting photo. Et ça a été très rapide pour nous. Et je pense qu'il y a plein d'utilisations comme ça qui peuvent faciliter. Après, la limite que moi je trouve, c'est que je reste quand même un passionné d'art de façon générale et d'humain aussi, mine de rien. Je trouve que ça faut pas non plus tomber sur un truc qui va être 100% IA. C'est-à-dire qu'un morceau qui serait fait par une IA, une cover qui serait faite par une IA, on commence à dénaturer un peu la création humaine. Mais sinon, sur le papier, il y a vraiment énormément d'utilisations qui peuvent vous simplifier la vie à tous ici présents, dans peu importe quelle va être votre activité. Je trouve quand même que c'est clé en main, c'est très facile. C'est à la portée de tous et vraiment il y a de la plus-value à aller chercher dessus.
Écrire le programme d'une SMAC ?
On pourrait potentiellement, en croisant potentiellement de la data, de l'IA générée, quels seraient par exemple les top vendeurs en concert dans les 2 prochaines années. Ce serait possible potentiellement de le faire générer par un prompt et d'avoir la prog du festival ultime dedans 2 ans potentiellement.
Il y a beaucoup d'IA dans Music Tech France aujourd'hui ?
En fait, je trouve que souvent il y a des choses qui se, comment dire, des solutions qui se présentent comme étant de l'IA, mais finalement quand tu creuses, c'est pas si sorcier que ça, quoi. Enfin, c'est souvent de l'analyse de données très poussée, et il y a beaucoup de solutions qui en fait sont juste de l'algorithmique bien foutu, mais pas forcément de l'IA.
Je sais pas si tu étais au Mama Festival donc à Paris il y a maintenant quelques semaines. On a pu constater qu'il y avait beaucoup quand même de tables rondes autour de l'IA, ce qui n'était pas le cas l'année précédente. Donc ça, c'est à peu près dans tous les mondes professionnels, on en est à peu près là. Dans tous les événements professionnels, on parle énormément d'intelligence artificielle. Toi, est-ce que tu as pu en suivre et est-ce qu'il y a des tendances que tu as, enfin des envies, des tendances que tu as repérées autour de l'IA dans cet écosystème, dans cette filière musicale française, via le MAMA par exemple?
Au MAMA, pas forcément, parce que j'étais un peu rivée sur le stand. Mais oui, je trouve que c'est un truc dont on a beaucoup parlé. Je pense que toute cette tendance de prédiction, notamment de... On parlait un peu, là, il y a beaucoup d'outils qui analysent les performances passées des artistes en termes de streaming, d'écoute, et si tous ces outils-là sont capables aussi de se projeter dans l'avenir, c'est quelque chose qui peut être très, très intéressant. Après, il faut toujours, je pense, le prendre comme une donnée parmi d'autres et ne pas se reposer que sur ça. Enfin, je le vois vraiment comme finalement une manière d'ouvrir un peu une porte vers d'autres données. Toi-même, tu disais, j'ai découvert pas mal d'artistes via ces outils-là, et t'en as découvert d'autres via ton réseau perso, et je pense qu'il faut toujours mixer ces deux choses-là. Donc j'ai toujours tendance à trouver qu'on en fait peut-être parfois beaucoup autour de l'IA et tout ça, mais il faut pas non plus perdre de vue la réalité, et ça vient aider et être une corde de plus à notre arc pour oui, élargir un peu nos horizons et penser à de nouvelles stratégies.
Réaction ?
J'ai tellement de choses, mais je vais essayer de choisir juste un truc pour ne pas ennuyer tout le monde. En fait, ce qui dérange beaucoup, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, pour moi, on n'y est pas à l'intelligence artificielle, ce n'est pas l'intelligence artificielle pour moi. C'est juste un outil ultra perfectionné qui compile des données et qui peut faire des prévisions ou les compiler pour avoir un résultat. Et c'est toujours un cerveau humain qui dit quoi prendre, quoi faire et à quel moment, de toute façon. Donc ça ne réfléchit pas tout seul. Ce n'est pas une intelligence. C'est artificiel, mais ce n'est pas une intelligence. Ça, c'était la petite parenthèse. Ceci dit, ce qui est souvent critiqué, c'est le côté « Ah, on est en train de prendre notre taf », comme dans beaucoup d'évolutions. Il y a souvent des emplois qui disparaissent. Est-ce que vous n'avez pas un petit peu peur pour vos emplois à vous ? Parce que là, vous ne vous sentez pas personnellement impacté, puisque vous dites que ce sont des outils qu'on utilise. Mais à un certain moment, si une intelligence artificielle arrive à repérer des données intéressantes sur des artistes, ils vont finir par repérer les artistes tout court, et quelque part, cette expertise-là peut être à terme remplacée en toute science-fiction.
Donc le programmateur peut disparaître. Tu as évoqué effectivement le fait d'écrire, je disais, écrire le programme, mais pas au sens programmation, mais le programme papier ou le programme web, peu importe, mais écrire, on peut remplacer métier de la communication. Faire du visuel, on peut, donc c'est pareil, métier de la communication. Effectivement, est-ce qu'il y a péril en la demeure ? Oui ou non ?
Dans tous les cas, en fait, un peu comme ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est la qualité du prompt aussi qui va faire que l'IA va savoir faire ou pas ce qu'on lui demande. C'est-à-dire que... c'est quelque chose qui va toujours rester humain avant tout. Maintenant, si on prend vraiment l'extrême, moi j'ai du mal à m'imaginer demain un artiste qui signerait avec une intelligence artificielle ou avec un label qui n'existe pas, un label sur lequel il n'y a pas d'humain, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de cachet. Il y a des gens qui ont essayé aujourd'hui de monter des maisons de disques digitales. Aujourd'hui, ils font que du digital, ils ne sont pas présents dans le réel. C'est-à-dire que je pense que l'industrie de la musique, ça reste quand même une industrie qui se vit, que ce soit du concert, que ce soit du merch, du physique. Je pense qu'on n'enlèvera pas forcément ça, ou en tout cas pas tout de suite. Moi, personnellement, pour répondre à ta question, j'ai pas tant peur pour mon activité, parce que ça reste une activité où quand même le conseil humain est archi intéressant. Aujourd'hui, je pense pas qu'il y a une IA qui puisse faire un audit sur un projet de musique, un audit concret hors data. Bien sûr que sur la data, on est d'accord, une IA pourrait très bien facilement savoir si un projet est bankable ou pas. Par contre, l'affinité artistique, ça compte beaucoup. Quelque chose qui ferait le buzz avec une musique vraiment complètement nulle, je suis pas persuadé que derrière il y a un label qui va se positionner, même si il y a un énorme buzz et que c'est mondial. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de pérenne à faire derrière ? Ça reste de la projection humaine. C'est-à-dire que quelque chose qui marcherait une fois et qui ferait un gros buzz, c'est pas dit que derrière, même avec la meilleure IA du monde, on arrive à le reproduire. C'est quand même des humains derrière qui vont consommer la musique, c'est quand même des humains derrière qui vont se déplacer en concert. Je pense que même si on va arriver à automatiser pas mal de choses et qu'effectivement, il y a de la concurrence à prévoir, je pense notamment à mes amis directeurs artistiques en label, effectivement, le jour où leurs oreilles sont moins intéressantes, je dirais, que les stats qui sortent, peut-être que pour eux, effectivement, c'est la fin. Mais ça va créer en fait un nouveau métier. C'est que là, ce ne sera plus des directeurs artistiques, ce sera des directeurs de data. Et au final, même eux, pour rester un peu dans le truc, il va falloir qu'ils s'habituent aussi à ça. Et je pense qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il faut vivre un peu avec son époque. S'il y a des technologies qui arrivent, qui font peur parce qu'on n'a pas le recul dessus. Mais en même temps, aujourd'hui, ce sont des super outils. On reste quand même dans un monde qui est très humain. À ma connaissance, ce n'est pas possible de sortir un disque sans... parler à quelqu'un, sans aller en studio, sans avoir des vrais échanges. Il n'y a pas encore d'IA qui font vraiment, je sais pas, qui vont pouvoir faire de la DA à proprement parler. On peut générer des mélodies, on peut générer des prods, on peut potentiellement même faire un mastering avec une intelligence artificielle, mais on ne remplace pas les oreilles d'un humain non plus. Et ça reste quand même ça le principal outil dans notre métier. Donc j'ai pas tant peur pour ça. Mais je comprends qu'il y a des choses qui vont potentiellement évoluer. Ouais. Il y a des métiers qui vont peut-être changer. Je pense notamment au métier de directeur artistique de façon générale.
Non, Non, je suis complètement d'accord avec ça aussi. Dans le live, évidemment, c'est très humain. Enfin, c'est du live, donc évidemment, l'intelligence artificielle ne va pas remplacer ça. C'est pas l'intelligence artificielle. Elle peut nous aider à programmer tel artiste, à nous dire c'est cet artiste-là qu'il faut. Ça, oui. Après, quand il va falloir installer des toilettes sèches, c'est pas l'intelligence artificielle qui va faire. Quand il faut monter à 10 mètres pour installer les lampes, c'est pas l'intelligence artificielle qui va faire. Donc voilà, ça reste. Il y a quand même un particulièrement dans le live, il y a ce besoin humain qui restera, et je vois pas comment on peut, je me trompe peut-être, mais je vois pas comment on peut le changer.
Oui, il y a effectivement pour le live, il y a un musicien derrière, mais on a vu des artistes virtuels, des pop stars virtuels, la voix est générée informatiquement, alors la composition apparemment est humaine, mais la voix est générée informatiquement, là, comment dire, il y a du caractère design sur le personnage, un personnage fictif, une idole, comme on disait à l'époque. Et du coup, bah, on a même vu Tupac en version virtuelle aussi. Donc c'est quand même des choses qui sont là et on ne peut pas nier que ça peut éventuellement
alors, créer le live. Je me permets d'intervenir, je vous invite à vous intéresser à donc, la chanteuse Grimes qui autorise aujourd'hui le cloning de sa voix et donc a créé pour ça il y a carrément un artiste qui existe qui s'appelle Grimes AI que vous allez retrouver sur les plateformes de streaming hein, et donc elle autorise le clonage de sa voix et donc elle force simplement à publier sous le nom de Grimes AI et il y a un split des droits à 50-50. Donc grosso modo vous clonez une voix qui est une voix populaire. Vous composez ce que vous avez envie de composer. Il y a aucun elle ne pose aucun droit de regard sur et vous publiez sur. Regardez les chiffres de fréquentation de ça sur Spotify ou Deezer, c'est nul. En fait, ça n'intéresse personne. Elle partage des droits, ce qui est bien en plus est plutôt honnête, hein, plutôt finalement. Mais en fait, ils partagent pas grand-chose parce que ça n'intéresse absolument personne. Donc, ça a fait vaguement du buzz, mais effectivement, ça produit pas de résultats. Ce qui est plutôt rassurant quand même sur le fait que, par exemple, le clonage de voix, qui aujourd'hui est une vraie réalité technologique assez simple. Bon, il y a des usages professionnels où ça fonctionne, mais là, quand on arrive sur l'artistique, ça a pas l'air de déchaîner les foules, quoi. Donc c'est rassurant.
D'accord.
L'humain, humain avant tout. Robot après, voilà. Est-ce qu'il reste des questions, des interrogations? Je ne sais pas s'il y a des outils qu'on n'a pas évoqués, ou est-ce qu'il y a des trous dans la raquette, dans les outils du quotidien, de vos quotidiens qu'on n'a pas évoqués.
On se sert aussi d'une solution qui s'appelle Arena Matrix, qui est vraiment très efficace. On peut absolument tout demander. C'est quand le spectateur a un billet, s'il fait scanner son billet, il y a des mails automatiques qui peuvent s'envoyer. Il peut recevoir, par exemple, à gauche, tu auras le bar, voici les horaires, enfin, en bref, absolument tout. On peut tout envoyer avec ça. Et donc ça, c'est une solution bien pratique, Arena Matrix. Et il y a aussi, mais c'est anglais ou américain, je ne sais plus, il y a Roster, sans le E, qui en gros, si tu tapes le nom de l'artiste, ça me fait penser à un site français qui donne le nom du producteur, mais aussi le nom du manager, le nom de beaucoup plus poussé. Mais voilà, et ça c'est plus donc c'est un site très intéressant et ils font aussi pas mal d'études. Et voilà, je crois que c'est américain, mais je suis pas sûr.
Anthony,
moi j'ai deux outils en particulier dont on n'a pas forcément parlé. Le premier s'appelle Every Noise at Once. Alors, j'ai pas un très bon accent anglais, mais c'est tous les sons en une fois. Et en fait, c'est un site qui va répertorier toutes les nouvelles releases qui apparaissent sur les plateformes de streaming, par tag, par genre, par mot-clé de façon générale. Et donc, ça, je m'en sers beaucoup pour faire moi une veille de quels sont les projets qui sortent. Et donc, ça, c'est une des plateformes que je trouve intéressante qui scrape en fait l'API Spotify, toutes les nouvelles releases, et qui va vous les mettre un peu comme un nuage de points. Je sais pas si vous voyez l'image. En fait, en partant d'un genre, vous pouvez avoir accès à des artistes, puis plus vous allez creuser, plus vous allez avoir les releases qui vont correspondre à des sous-genres particuliers. Donc ça c'est pas mal, surtout si vous suivez des niches très précises de musique. Et sinon l'autre outil que j'utilise beaucoup c'est Chartmetrix, c'est à peu près la même chose que Soundcharts aujourd'hui, c'est pour tracer de la data de façon générale. Je m'en sers pour mes artistes, pour mes playlists, pour énormément de choses. L'idée c'est, comme je le disais pour Soundcharts, un peu c'est une photographie en fait, 5 mois avant, 2 mois avant, 3 mois avant, qui vont permettre de voir l'évolution de l'artiste. Et en fait tous les jours c'est mis à jour, toutes les 24 heures, avec les datas. Et donc ça vous permet de rétro-pédaler dans le temps, d'aller voir comment était ce projet à cet instant T, comment il est maintenant. Je m'en sers beaucoup pour tracer les datas autour de mes projets et voir l'évolution du coup des campagnes aussi qu'on lance de notre côté.
Alice, il y a un outil que tu aimerais évoquer ?
Non, bah on a fait un tour d'horizon assez, ouais. Assez apprécié. Enfin, mais bon, je sais pas si ça va plaire à tout le monde du coup. Il y a, par exemple, on peut parler aussi de solutions qui permettent de faire des concerts entièrement virtuels dans ce qu'on appelle le métaverse. Voilà. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais je trouve que c'est aussi une forme finalement de prestation scénique qui vient s'ajouter. Voilà, il y a le live bien physique. On peut aussi maintenant faire des concerts avec son avatar dans le monde virtuel. On a par exemple une solution qui s'appelle VR Room.
Et qui est française, donc on a ouais. le droit de le dire.
Voilà, qui bosse sur ça. Et donc là aussi, ça génère pas mal de questions. Mais encore une fois, je pense qu'il y a de la place pour toutes ces formes d'expression, que ce soit du live bien physique tel qu'on le connaît, ou ces formes-là complètement digitalisées.
Eh bien, il me reste à vous remercier. Merci de votre présence. Merci de. Écoutez, après, vous avez peut-être encore quelques instants, en tout cas pour vous deux qui rentrez à Paris, vous avez peut-être quelques instants de disponibles s'il y a des gens qui souhaitent vous poser des questions de manière plus discrète. Merci à vous toutes et tous. Un petit peu de. Moi, je fais un peu d'autopromo. À la Pleine Image, on fera un événement au mois de décembre sur Génération Z et Live, justement, sur cette question de comment aujourd'hui le live, le concert est perçu par la Génération Z. Et on fera intervenir notamment un chercheur qui a travaillé pour le Centre National de la Musique sur ce sujet. Et puis plein d'autres événements Music Tech tout au long de l'année. Music Tech France, un peu d'autopromo, est-ce qu'il y a de l'autopromo à faire?
Music Tech France, toujours pas mal de rencontres prévues pour aborder différents sujets. On a en fait grosso modo des événements tous les mois, donc à chaque fois on poste sur le site, notamment tout ce qui est petit déjeuner, rencontres avec des grands groupes ou bien événements thématiques. Et de manière générale, si vous êtes intéressé pour savoir un peu comment accéder à ce réseau-là, bah, n'hésitez pas à venir m'en parler.
Anthony, autopromo, ton artiste à toi du moment dans ton écurie?
Ouais, je peux faire un petit peu d'autopromo. J'ai un artiste franco-québécois en ce moment que j'aime beaucoup, qui s'appelle July. On a sorti un projet il y a 2 semaines à peu près. C'est un tout petit projet, ça dure 5 minutes, 5 morceaux d'une minute. Ça s'appelle Rapide et Dangereux, donc c'est Fast and Furious traduit en québécois du coup. Si vous avez 5 minutes, vraiment, ça dure 5 minutes, je vous encourage à aller écouter. Et pour le reste, je gère une agence qui s'appelle Punch Promo. Vous pouvez nous trouver sur les réseaux, punch.promo, punch.promo. Et sinon, je vais rester un peu dans le coin si vous voulez discuter, avec grand plaisir.
Florent, autopromo?
Qui distribue, on va faire une mise à jour. En janvier, on pourra tous s'inscrire, tous rentrer son propre roster. Et je fais aussi des petites analyses et tout. N'hésitez pas à me faire un retour, mais ça m'amuse, donc voilà.
Eh bien, merci beaucoup. Bonne soirée à tous.